Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés.
Et tu fou, je suis bien trop stone. Hey, Bière!
Ah non, une fois que je prenne pof, je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis deux, trois pofs.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Bonsoir, bienvenue à 3100 secondes d'histoire. Je suis votre animateur Alexandre Prince avec ma co-animatrice Amy Bois.
Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Amy. Et ce soir, on a la chance de recevoir Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Histoire des villes nord-américaines » aux éditions du Septentrion. Alors, bonsoir Monsieur Bérubé.
Bonsoir.
Alors ce petit livre en fait a été... Fait dans la collection Aujourd'hui l'histoire avec au Septentrion à l'occasion justement des certaines de vos chroniques portant sur la thématique de l'histoire des villes nord-américaines et on est très choyé de vous avoir ce soir étant donné de tout ce qu'on entend dans les médias là, concernant le tramway mais aussi l'accès au logement donc les questions de l'espace urbain sont très brûlantes aujourd'hui et ce qui vient avec cette thématique de l'histoire des villes nord-américaines nous a amené à nous pencher justement sur qu'est-ce qui pourrait distinguer les grandes villes nord-américaines des grandes villes qui sont sur les autres continents.
Oui, bonne question. C'est une bonne question sur laquelle nous allons ouvrir la discussion. Est-ce qu'il y a une telle chose que la ville nord-américaine? Mm-hmm. Je pense que oui. Évidemment, si on pense à des bâtiments distinctifs de certaines villes, là, elles ont toutes leurs personnalités, leurs caractéristiques propres. Mais en même temps, si on regarde une banlieue de Montréal, une banlieue de Chicago, une banlieue de Los Angeles, on risque de retrouver le même genre de bâtiment, les mêmes voitures, la même piscine, le même gazon plus ou moins desséché. Donc il y a quand même une sorte de matrice commune qui découle à la fois de... Bon, elles ont des caractéristiques communes, elles ont la chronologie de leur développement aussi se ressemble. Évidemment, il y a des variations régionales importantes, mais ce sont des villes du Nouveau Monde. Ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est de souligner que ce sont des villes qui vont, à partir surtout de la fin du 19e siècle, disons, incarner la modernité urbaine. Et quand on va penser à la ville moderne, on va penser à New York, à Chicago, donc aux grandes villes américaines. Donc, elles vont avoir un impact à ce niveau-là, puis elles vont servir à la fois d'exemple, de ce que la modernité urbaine peut avoir l'air, mais aussi parfois de contre-exemple, le gigantisme, les inégalités, etc.
Et donc, on peut dire que par ce miroir de la modernité, elles vont transformer la planification urbaine partout dans le monde.
Oui, absolument. Que ce soit parce qu'on s'en inspire, parce qu'on recherche à recréer la même chose. On peut penser à ces drôles de banlieues là, faites en copier-coller en Chine, par exemple, ces temps-ci qui sont laissés à l'abandon. On fait simplement reproduire le modèle un peu naïvement, mais aussi on va souvent les présenter comme un peu comme contre-exemple. On veut surtout pas faire l'équivalent d'une ville américaine. Donc, on va penser à l'échelle, parfois à la ségrégation, etc. Donc, elles ont vraiment un pouvoir d'évocation quand même assez important.
Absolument. Alors, parfait. C'est une émission qui s'annonce très intéressante. Et avant de poursuivre avec les questions, on va aller dans notre toute première pause musicale, un peu dans la thématique du contre-exemple. C'est une chanson de Boule Noire qui s'appelle « Loin, loin de la ville ».
Dans ta maison. Où
Vous êtes de retour à l'émission 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94.3. Ce soir, nous recevons l'historien Harold Bérubé pour une émission sur l'histoire des grandes villes nord-américaines. Alors, continuons donc notre survol de l'histoire des grandes villes nord-américaines. Malgré toutes les particularités associées aux grandes villes nord-américaines, ces dernières sont souvent représentées par un symbole particulier architectural, donc le gratte-ciel. Quel est le rôle de ce gratte-ciel dans nos espaces urbains et comment s'est-il développé et diffusé à l'échelle du continent?
Question intéressante. C'est une des choses qui est fascinante quand on regarde les textes de gens qui vont dans les villes américaines, dans l'entre-deux-guerres notamment, spécialement dans les années 20, c'est la chose qui les frappe. La présence des gratte-ciels pour les observateurs, notamment européens, est un choc en termes de rupture d'échelle. Donc, il y a vraiment, comme vous le dites, là, quelque chose du symbole de la ville nord-américaine dans le gratte-ciel. Donc, d'où vient-il ce gratte-ciel? Il répond à un problème assez simple, un problème d'espace que la ville a. La ville, elle est trop dense, elle est populeuse. Donc, il faut trouver une manière de gérer cette anomalie de peuplement, là, comme disait Fernand Braudel. Donc, il y a un peu comme deux solutions. Il y a l'étalement urbain. On va étendre la ville sur le plan horizontal, mais il y a aussi la volonté de l'étendre sur le plan vertical. Donc, le problème d'espace auquel on veut trouver une solution, c'est le fait que les valeurs foncières dans les centres-villes augmentent tellement, le terrain au pied carré coûte une fortune. Donc, autant rentabiliser autant que possible cet espace-là en construisant, donc en hauteur. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'il y a des défis technologiques et techniques considérables qu'il va falloir surmonter pour construire le gratte-ciel. Bon, j'entrerai pas dans tous les détails, la ventilation, les ascenseurs, etc. Mais en gros, il y a vraiment toutes sortes d'innovations qui sont faites, notamment au niveau de la structure d'acier. Et tout ça est élaboré donc, pour permettre l'érection de gratte-ciel toujours plus grand. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment Chicago qui est un peu le laboratoire premier du gratte-ciel pour toutes sortes de raisons, là, notamment le fait que la ville est rasée par un incendie dévastateur en 1871 et en fait, l'incendie est dévastateur, mais en même temps, c'est une belle opportunité pour les élites politiques et économiques locales de reconstruire et reconstruire en hauteur. Alors, on va avoir une succession de gratte-ciel d'immeubles qui se rapprochent graduellement du gratte-ciel jusqu'à ce qu'on perfectionne à peu près la forme à la fin du 19e siècle. Mais c'est vraiment à New York que tout ça va éclater, si vous voulez. Ce qui arrive, c'est qu'à la fin du 19e siècle, à Chicago, les élites municipales décident d'adopter des lois qui limitent la hauteur des gratte-ciel, des immeubles. Donc, les architectes, les promoteurs, tout ça déplacent leur regard vers New York qui, au contraire, est impatiente d'avoir les plus gros gratte-ciel, donc du monde. Et c'est vraiment là que la course commence. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous disais, le gratte-ciel, c'est une solution, un problème d'espace. Mais c'est pas juste ça. Et là, on préfère des blagues sur la surcompensation et les corvettes. Mais en gros, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, de grandes entreprises qui vont voir dans le gratte-ciel pas juste une solution, un problème d'espace, mais c'est la manifestation de leur puissance économique. Mm-hmm. Donc, on va voir vraiment à New York une série comme ça de gratte-ciel, tous plus prestigieux les uns que les autres, associés à des grandes entreprises. Mon préféré, par exemple, j'adore le Chrysler Building qui, évidemment, est érigé par la compagnie donc, d'automobiles du même nom. Et l'idée est vraiment pas juste de régler le problème d'espace, mais de montrer à la face du monde que c'est nous les plus puissants. Et là, il va y avoir des gratte-ciels très, qui sont justement très, très opulents dans leur décoration intérieure-extérieure. Il y a toutes sortes de manœuvres également un peu ridicules qui sont faites pour avoir le plus gros gratte-ciel. On entre vraiment dans la course où les records tiennent jamais plus que quelques mois, notamment pour le Chrysler Building, si je me souviens bien, c'est celui-là. On va cacher à l'intérieur du building une flèche qui, vraiment, à la toute fin, on va installer au sommet pour déjouer les autres okay. promoteurs qui sont en train de construire le gratte-ciel et qui ne réalisent pas que, oups, on ajoute un 60 mètres à la fin. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment comme ça cette course-là, c'est ça, au gigantisme.
Donc là, on a l'impression que ça crée la surprise, l'étonnement. Mm-hmm. Ces gratte-ciels-là qui se construisent et qui se développent à l'échelle des villes nord-américaines, mais il devait aussi y avoir des réactions opposées ou ça devait choquer aussi certaines franges de la population peut-être plus conservatrices.
Oui, la rupture d'échelle va provoquer. Il va y avoir parfois un discours justement sur l'arrogance, hein, sur l'hubris de ces gens justement qui construisent toujours plus haut. Évidemment aussi sur le fait que justement il y a cette rupture d'échelle dans une réaction qui n'est même pas conservatrice, qui est plus peut-être urbanistique, architecturale, mm-hmm. qu'il y a une sorte de presque violence là, dans l'érection de ces bâtiments-là. Il y a aussi quand même une symbolique importante, c'est-à-dire que notamment New York, là, le nom de l'église exacte m'échappe, mais le bâtiment le plus haut de New York du début du 19e siècle jusqu'au tournant du 20e, là, c'est une église. Comme je dis, dont le nom m'échappe, mais le fait que tout à coup, les bâtiments religieux étaient le bâtiment qui trônait, qui dominait sur la ville, et remplacé par des bâtiments qui incarnent le lucre, l'argent, les affaires, c'est vu effectivement là, comme un symbole. Là, pour ceux qui voient dans la ville la Babylone des temps modernes, ça va vraiment refléter un peu ça.
Et donc, vous parlez de ce monde-là où les gratte-ciels donc, poussent comme des champignons, se répandent très, très vite. Et c'est probablement ce qui frappe le plus quand on observe les grandes villes nord-américaines, c'est justement leur dimension, leur population, comparativement à leur existence. Donc, c'est des villes qui sont relativement récentes. Donc, Chicago, Los Angeles sont beaucoup plus récentes que beaucoup de grandes villes en Europe, en Asie. Et pourtant, elles ont connu une croissance effrénée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la croissance extrêmement rapide de ces grandes villes-là?
Oui, c'est vraiment une caractéristique distinctive de la ville nord-américaine, la vitesse donc de sa croissance, dans tous les sens du mot, là, à la fois sa croissance sur le plan démographique, mais aussi son étalement dans l'espace. Le premier moteur de ce développement-là, c'est l'industrialisation. L'urbanisation américaine est fille de la révolution industrielle. J'aime bien toujours utiliser l'exemple de Chicago, et vous allez voir que je vais revenir peut-être trop souvent sur Chicago. ce soir, mais la ville, donc, en 1850, pardon, elle a 30 000 habitants. 20 ans plus tard, elle est déjà à 300 000. Et dans les années 20, on est à 3 millions. Donc, il y a une sorte de croissance là, phénoménale très, très rapide. Et donc, c'est ça. L'industrialisation nourrit cette croissance-là pour ce qui est de la démographie. Donc, des populations immigrantes, évidemment, importantes qui se dirigent vers les États-Unis. L'exode rural, un peu comme ce qu'on voit quand même au Québec et au Canada. Mais donc, il y a cette croissance très rapide. Pour ce qui est de la croissance, disons, sur le plan spatial, c'est vraiment que ce sont des villes, elles n'ont pas composé, il n'y a pas de patrimoine médiéval antique à préserver. Hein, on construit, on démolit, on recommence, un peu comme à Chicago, d'ailleurs, dans la plupart des villes qui ont une bonne santé économique à l'époque, et on ne retrouve presque rien de l'ère victorienne parce que, justement, on rase et on reconstruit systématiquement. Montréal, dans le fond, a bénéficié de cette déconfiture économique au tournant du 20e siècle, ce qui a préservé une partie de ce patrimoine-là, ce qui n'est pas le cas à Toronto. Donc, on construit rapidement. Il y a le libéralisme, hein, le fait que l'Amérique du Nord et surtout les États-Unis, hein, c'est l'idée du rêve américain, du privé qui a préséance sur le public. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir municipal très fort, initialement, en tout cas, qui est capable d'imposer du zonage, de l'urbanisme. Donc, on a un développement qui est non seulement rapide et freiné, mais qui est très chaotique. Hein, très peu de notions d'urbanisme, très peu de planification, d'aménagement. On construit, dans le fond, au rythme du dynamisme économique des grands centres.
Et est-ce que les villes, par exemple, vous avez nommé tantôt, je pense, Chicago, qui avait adopté une loi pour limiter la hauteur des bâtiments. Québec a fait la même chose, notamment là, dans la partie Vieux-Québec à l'intérieur des murs. Est-ce qu'on voit, quand les villes adoptent de tels règlements, est-ce que ça freine la croissance des villes? Et est-ce que, justement, ça va faire que, dans le fond, les villes vont se tirer dans le pied pour longtemps? Comme Québec, par exemple, peut-être que si on n'avait pas eu de tels règlements, aurait pu avoir une croissance plus importante.
Ouais, bonne question. Tu sais, pour ce qui est un peu du gigantisme, pour ce, ça va toujours être un peu l'argument, c'est-à-dire de, c'est le vieux refrain un peu de, d'Adam Smith, là, de laisser le capital donc agir et le développement va bien se faire. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des cas, effectivement, ça va freiner le développement ou en tout cas le rediriger, si on peut dire. C'est le cas justement à Chicago, comme je disais, pour ce qui est du développement des gratte-ciels. Est-ce que ça nuit au dynamisme des villes? Pas nécessairement. Ça en modifie certainement le caractère. Dans certains cas, ça joue en leur faveur. C'est-à-dire que ça crée un environnement qui est plus désirable, plus recherché jusqu'à un certain point. Mais c'est clair, effectivement, que le vent souffle plus en direction de la libre entreprise, de la libre initiative. Et souvent, le problème, effectivement, c'est que si les normes sont trop contraignantes, la crainte, et c'est souvent ce qui arrive, effectivement, c'est que les opportunités vont se déplacer ailleurs. Ou alors, et parfois pas très loin, c'est-à-dire que on va voir, parfois, les gens vont simplement sortir la ville adopte tel règlement d'urbanisme, on va se rendre jusqu'à la frontière, entrer dans les premières banlieues qui existent à l'époque et on va construire un peu n'importe quoi. Ouais. Donc, parfois, c'est ça, ces lois-là ont une portée limitée. Mais on le voit comme ça. Quand il y a de l'urbanisme adopté quelque part, les gens qui veulent y échapper n'ont pas à aller très loin pour construire autrement.
Et l'un des signes les plus visibles de cet urbanisme axé sur l'individu, sur la propriété individuelle, c'est résolument dans le monde du transport. Et donc, généralement, on entend souvent ça au Québec, au Canada et même aux États-Unis, des gens qui font vanter le système de transport en Europe, par exemple, donc à quel point les trains sont merveilleux, ou même le fait de se sentir en sécurité en tant que piéton. C'est une sensation qui est tout à fait différente selon la planification urbaine. Donc, qu'est-ce qui explique justement ce rapport qu'ont les villes nord-américaines avec le transport et comment est-ce que l'automobile forger nos environnements?
Oui, c'est. Écoutez, je me méfierais quand même du contre-exemple européen, c'est-à-dire que je me souviens que les conducteurs de Dublin sont particulièrement assassins et il y a des ronds-points parisiens que je voudrais jamais emprunter à moins d'être dans un tank. Mais vous avez quand même raison, tu sais qu'en général, il y a une meilleure intégration du transport en commun dans les villes européennes. La question du tramway, le premier chapitre dans le livre est à propos du tramway pour la simple et bonne raison que quand je parlais des villes, disons, pré-industrielles, ce sont les villes piétonnes. On s'y déplace à pied, à l'occasion à cheval, mais la majorité des gens se déplacent à pied. Et ça fait des villes très denses, très ramassées, c'est-à-dire qu'on la ville va avoir la grandeur donc un peu dans laquelle on peut se déplacer facilement à pied. Le tramway change tout ça. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est ironique parce que présentement, on voit dans le tramway une solution pour redensifier notamment Québec, mais d'autres villes aussi. Mais à l'époque, le tramway, c'est l'agent du mal, entre guillemets. C'est le moyen de transport qui permet l'étalement urbain. Donc, une fois que le tramway arrive, l'étalement urbain devient possible. C'est un moyen de transport qui est élaboré en Europe et en Amérique du Nord, qui est d'abord hippomobile. Donc, les tramways sont tirés par des chevaux. Et la révolution est vraiment lorsqu'on va les électrifier. Et entre ça, il y a le tramway à vapeur là, à San Francisco. Vous l'avez probablement déjà vu là, avec ses pentes spectaculaires. Mais c'est le tramway électrique qui change tout. Qui se diffuse d'ailleurs rapidement à la grandeur du continent et là qui permet vraiment à la ville de s'étendre. Ce qui est intéressant du tramway, il a des forces et des faiblesses, donc c'est un moyen de transport élégant d'une certaine manière, mais il a ses défauts, dans le sens qu'il ne faut pas non plus l'idéaliser. Notamment, il y a cette question de la coexistence entre le tramway, les chevaux, les piétons et éventuellement les automobiles. Donc, il prend de la place dans les rues, donc il faut que le tracé routier soit adapté à la présence de ce gros véhicule. Puis, il faut dire aussi que c'est pas un moyen de transport très flexible. Une fois que vous avez mis les rails sur telle ligne, vous ne pouvez pas décider 2 ans plus tard que non, on était mieux de le placer ailleurs. Ce qui va faire d'ailleurs que certaines villes se tournent vers l'autobus, c'est pas tant un désamour par rapport au transport en commun, c'est le fait que le tramway, quand même, c'est ses limites et ses défauts. Mais donc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va sonner un peu le glas du tramway en Amérique du Nord? 2 ou 3 choses qui sont quand même à la source des problèmes qu'on a maintenant avec les transports en commun. C'est-à-dire que d'une part, la plupart de ces entreprises-là sont privées. Il faut le dire, là, à l'époque, fin du 19e jusque dans les années, disons, 50-60, beaucoup, beaucoup de services qu'on assume être public aujourd'hui, à l'aqueduc, l'électricité, le transport en commun en ville, sont entre les mains d'entreprises privées qui, et là je vais mettre mon chapeau marxiste un instant, pensent essentiellement à leur profit. Le bien commun ne les intéresse pas, donc ils vont desservir les secteurs où c'est payant, négliger ceux où ça ne l'est pas. Ils vont mal entretenir leur équipement. Donc, on le voit là, dans les années 20, le tramway a des problèmes, non pas parce qu'il n'est pas efficace, mais parce que les entreprises n'entretiennent pas leur flotte, répondent pas aux besoins donc de la population, respectent pas leurs leurs engagements au niveau des prix. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Écoutez, donc, l'autobus donc, va servir un peu de remplacement, mais c'est l'arrivée de l'automobile. Et là, c'est comment dire, une des caractéristiques des villes nord-américaines. Il y a de l'espace en Amérique du Nord. J'ai dit tout à l'heure, on peut démolir, reconstruire, élargir à satiété. Et il y a ce libéralisme, cet individualisme. Les gens vont se tourner vers l'automobile. Et une fois que l'automobile devient abordable, il devient très difficile de leur proposer le tramway comme alternative.
Donc, les routes, les autoroutes apparaissent assez tôt, dans le fond, au 20e siècle.
Oui, bien, les autoroutes, vraiment, les années 50-60, mais la transformation commence dès l'entre-deux-guerres. Et là, ici, le grand agent de transformation, c'est la banlieue. La banlieue, il va y avoir ce qu'on appelle des streetcar suburbs dès le début du 20e siècle, c'est-à-dire que là où les entreprises mettent des lignes de tramway, les banlieues se construisent, dans le fond. Et ça, c'est intéressant parce que ça va être la première fois que les infrastructures de transport dictent le développement d'une ville. Du moment où une entreprise met une ligne, les promoteurs se lancent pour construire et ça crée une ville un peu en rayon de soleil, si vous voulez, mm-hmm. donc le long des lignes de tramway. L'arrivée de l'automobile change tout ça. Là, on peut installer des banlieues partout et n'importe où de manière chaotique et les promoteurs vont le faire et le mode de vie suburbain devient intimement associé à l'automobile. Il devient justement très difficile d'imaginer une ville qui ne fonctionnerait pas sans ce moyen de transport-là. Et là, l'automobile s'impose assez brutalement dans la culture et le mode de vie nord-américain. Et on le voit aujourd'hui, c'est tout un défi de convaincre le Nord-Américain moyen de renoncer à sa voiture. Il faut vraiment passer par les contraintes les plus absurdes. Puis on le voit, c'est-à-dire que cet amour de la voiture, on parle souvent, et à Québec c'est le cas, là, la question de le dilemme entre construire plus de transports en commun, plus d'autoroutes. On le voit depuis les années 60, la solution pour le trafic, on dit oui, mais construisez plus d'autoroutes. Et c'est pas compliqué. À chaque fois qu'on construit plus d'autoroutes, on nourrit plus de transport automobile. Donc, il y a vraiment... c'est vraiment pas la bonne solution, clairement, parce que si c'était le cas, ça ferait longtemps qu'à Los Angeles, il n'y aurait plus de trafic. C'est la ville, je pense, en Amérique du Nord, où il y a le plus de kilométrage d'autoroute, et ça n'a absolument rien réglé. Donc, clairement, il faut convaincre les gens de revenir au transport en commun. Et là, je n'ai pas de solution clé en main, mais c'est clair que ça ne se fera pas nécessairement de gaieté de cœur, parce qu'il y a toute une culture comme ça de l'automobile à
contacter. En tout cas, peut-être que certainement, le prix de l'essence actuelle va en convaincre quelques-uns. Il y a peut-être aussi une conscience environnementale plus importante dans les nouvelles générations qui vont faire en sorte que les transports en commun vont être plus importants.
Oui, puis il y a une question intéressante, c'est la question de... encore là, je mets encore mon chapeau marxiste. Quelle classe sociale est-ce qu'on associe au transport en commun? C'est-à-dire que quand le tramway apparaît à la fin du 19e siècle, c'est quand même relativement dispendieux. Initialement, le simple ouvrier ne peut pas se le permettre. Donc, ce sont des cols blancs, ce sont des professionnels qui prennent le tramway. Le tramway est quand même associé à ce mode de transport prestigieux, oui, jusqu'à un certain point, donc qui est désirable. Et ce qui va beaucoup arriver à partir des années 30-40, c'est que le transport en commun va être associé justement aux gens qui ne sont pas capables de se permettre la banlieue, aux gens qui restent dans les quartiers ouvriers, dans les ghettos, etc. Et l'image du transport en commun va être teintée par cette association, donc à la pauvreté. Accéder à la classe moyenne, c'est avoir une voiture, c'est avoir une maison en banlieue. Donc, le transport en commun, il y a une sorte de repoussoir au niveau vraiment de la manière dont il est présenté, perçu. Et là aussi, c'est peut-être là qu'il y a une différence entre l'Amérique du Nord et l'Europe, où je crois que le transport en commun n'a pas nécessairement cette stigmate-là qu'on retrouve plus en Amérique du Nord.
Alexandre, est-ce que tu avais une question avant d'aller à la pause? Parce que moi, j'en aurais une à poser.
Non, je vais te laisser la
pause. Oui, OK. Mais j'aimerais savoir, à l'échelle de l'Amérique du Nord, est-ce qu'il y a vraiment on voit une différence entre la construction des villes, comment elles se sont développées, entre le Canada et les États-Unis, où il y a vraiment plein de similitudes et presque pas de différence entre nos deux pays?
Ah, c'est une bonne question. C'était le titre d'un article de Paul-André Linteau, « Does the border make a difference? » C'est une bonne question. Oui et non. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose comme une ville nord-américaine. Il y a une sorte de matrice commune où si vous allez dans une ville aux États-Unis, vous allez reconnaître quand même un certain nombre de repères là, par rapport à une ville canadienne, disons. Il y a quand même certains endroits où la frontière fait des différences. Je me demande si elles sont pas moins importante quand même que les différences régionales, c'est-à-dire entre les villes de la côte Est, disons les villes du Midwest, les villes de la côte Ouest. Vancouver a beaucoup en commun avec Seattle, probablement plus qu'avec Toronto peut-être. Mais oui, il y a des différences. Quelques-unes qui viennent rapidement à l'esprit. Évidemment, la question raciale, on va en reparler, j'imagine. Mais c'est clair que la question de la ségrégation, la question, évidemment, du rapport avec les Afro-Américains en particulier, ne se pose pas de la même manière au Canada. Elle se pose, mais pas du tout à la même échelle et avec les mêmes moyens. Il y a la question de la banlieue, effectivement. La banlieue, l'étalement urbain était beaucoup moins intense au Canada qu'aux États-Unis, certainement, et le déclin des centres-villes. Ce n'est pas toutes les villes américaines, mais il y a des villes américaines là, dans les années 60, 70 et 80 qui ont connu des déclins presque inimaginables ici, là, des chutes démographiques, des quartiers entiers laissés à l'abandon. Vous avez probablement déjà vu des photos de Détroit, le centre-ville de Détroit. Écoutez, il y a des quartiers entiers, là, c'est comme Berlin en 1945. Ce sont des ruines dans lesquelles la nature le reprend un peu ses droits. On n'imagine pas ça au Canada. Il y a des quartiers qui ont des problèmes, il y a des quartiers dévitalisés, mais l'idée de, par exemple, d'abandonner un quartier entier de Montréal à la nature, c'est difficile à imaginer donc au Canada.
Parlant de Montréal, c'est là où on va se rendre pour notre seconde pause publicitaire dans cette ville qui a un taux de pompe par habitant plus élevé que Québec, si on en croit nos élus. Et donc, on s'en va en pause musicale avec Robert Charlebois avec Je reviendrai à Montréal. Bonne écoute.
Un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre. Des anges. Je reviendrai à Montréal. Écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas.
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but.
La série Remparts contre Océanique se transporte maintenant à Rimouski, alors que le troisième match vous sera présenté ce jeudi dès 19h30. Ne manquez pas l'avant-match à 19h15. La série Remparts contre Océanique, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Tire le but!
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment.
Re-bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3 FM à l'émission 3100 secondes d'histoire où on reçoit aujourd'hui Harold Bérubé pour nous parler de l'histoire des villes nord-américaines. Alors, avant la pause, on a parlé des débats entourant le tramway, entourant le transport. Et après cet aspect-là, un autre aspect des villes qui, souvent, est à l'origine de nombreux débats, c'est celui des espaces verts. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rapport ambigu qui existe entre la ville et la nature et comment on est arrivé à avoir des immenses parcs urbains comme il y a à Central Park ou sur le Mont-Royal?
Oui, il a fallu d'abord faire un détour par l'évacuation de la nature presque complète et entière de la ville. Quand je parlais tout à l'heure des villes piétonnes et des villes, disons, pré-industrielles, la nature n'était jamais très loin, c'est-à-dire que il suffisait justement de marcher assez brièvement pour sortir de l'enceinte ou des limites de la ville et se retrouver en campagne, voire en forêt. Donc, la nature n'était pas très loin. À mesure que ces villes-là prennent un peu d'expansion, il y a un peu de nature qui apparaît à l'intérieur, souvent des espaces réservés ou en tout cas des espaces associés aux élites, là, des promenades ou des jardins, ce genre de choses-là. Mais une fois que la ville industrielle comme se déploie dans toute sa terrible splendeur, les choses vont changer, c'est-à-dire que la nature disparaît peu à peu de la ville. Pendant un certain temps, quand même, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au début de l'industrialisation, la campagne reste en ville jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que étonnamment longtemps, parfois, là, quand on regarde les archives, il y a des animaux qui restent en ville. Évidemment, les chevaux. Les chevaux sont ceux qui vont rester le plus longtemps parce qu'on les utilise comme moyen de transport. Mais il y a des gens qui élèvent des poules, des vaches, des cochons. Écoutez, même des abeilles. Il y a de l'apiculture qui se fait dans les villes, notamment Toronto, là, jusqu'à la toute fin du 19e siècle. Donc, il y a cette présence-là, mais éventuellement, au début du 20e, il y a une sorte de réflexe, un peu cette idée que la campagne n'a pas sa place en ville. Tu sais, que c'est un peu habitant d'avoir des cochons dans une grande métropole industrielle qui se veut moderne et prospère. Donc, on va peu à peu se débarrasser de cette nature-là. C'est ça qui est intéressant. Et quand on parle de ramener la nature en ville, on ne ramène pas n'importe quelle nature. C'est surtout pas les cochons, les vaches et tout le reste. Donc, qu'est-ce qui va arriver à partir, donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on s'aperçoit comme ça que la nature est disparue de la ville. Quand on parlait de ces commentateurs plus conservateurs là, qui s'inquiètent des effets de l'urbanisation, une de leurs inquiétudes, c'est cette perte de contact avec la nature. On a l'impression d'accoucher d'une humanité un peu monstrueuse parce qu'elle est divorcée de cette nature-là. Donc, on va commencer à réfléchir à la manière de ramener la nature en ville ici, vraiment, le point de départ, c'est Central Park à New York. C'est la rencontre un peu de deux ambitions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont complémentaires. C'est-à-dire que, d'une part, les élites new-yorkaises sont pressées de montrer à la face du monde que leur métropole est aussi civilisée qu'une grande ville européenne. Donc, un des projets qu'on veut mettre de l'avant pour ça, c'est de créer un grand parc qui montrerait que nous sommes civilisés, si vous voulez. Donc, on va chercher quelqu'un pour aménager le parc. Donc, c'est... comment ça s'appelle, c'est Calvervaux et Frederick Law Olmsted. On va surtout retenir le deuxième. Donc, Olmsted, c'est intéressant, c'est lui qui va aménager avec Vaux le parc. Et Olmsted a une idée assez précise du rôle que doit jouer le parc. Pour Olmsted, il n'y a rien à faire pour ce qui est de la ville. La ville est une cause perdue. Les villes industrielles qu'il observe pour lui, ont un effet foncièrement négatif sur le caractère humain, sa moralité, sa santé mentale, etc. Et le seul échappatoire, c'est de lui donner accès à la nature, de permettre aux citadins d'échapper à l'enfer urbain, de se ressourcer. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il construit Central Park. Pour lui, Central Park doit être un oasis dans lequel tous les citadins vont pouvoir se réfugier. Et il y a vraiment une sorte de déterminisme pour lui. Un environnement comme ça, clément, doit adoucir les mœurs, améliorer le caractère moral, éloigner le péché. En fait, vous pouvez voir un peu ce dont il s'agit. Donc, le cas de Central Park va vraiment frapper l'imaginaire. Évidemment, les élites new-yorkaises n'hésitent pas, évidemment, à se vanter de la chose. Olmsted va être un très bon promoteur de ses propres services. Et lui, ses élèves et d'autres animateurs du genre, donc toutes les grandes villes nord-américaines vont vouloir leur Central Park. Et là, c'est intéressant parce qu'effectivement, comme je disais, Olmsted est vraiment bon pour se mettre en marché. Et il va planifier donc des parcs un peu partout, notamment le parc du Mont-Royal à Montréal. Et partout, on va chercher un peu ça. On veut le parc à la fois, c'est un symbole de prestige, c'est un signe que votre ville est arrivée à destination en termes de développement, mais aussi, on va y voir vraiment quelque chose là, comme un service qui devient de plus en plus essentiel. Même si c'est important de souligner qu'encore à la fin du 19e siècle, le parc, le grand parc, est un théâtre de conflit. C'est-à-dire que des gens comme Homestead, des membres de la bourgeoisie, ont une idée très précise du rôle que le parc doit jouer. C'est un endroit de recueillement, de quiétude. D'ailleurs, il faut souligner que les ancêtres de ces grands parcs-là, c'est les premiers grands cimetières urbains. Hein, on crée des grands cimetières aménagés avec beaucoup de végétation. Et l'idée, c'est que les gens vont aller là, évidemment, visiter les tombes de leurs êtres chers. Mais également, on s'attend à ce qu'ils se recueillent, à ce qu'ils atteignent une sorte de plénitude morale, spirituelle, etc. Et les parcs sont pensés comme ça. Mais là, évidemment, les classes populaires et d'autres gens n'ont pas nécessairement cette idée-là. Ils veulent jouer dans les parcs. Certains veulent cuisiner. Dans le cas du parc La Fontaine, il y a toute une série de conflits parce qu'il y a des gens qui amènent leurs chèvres broutées. En tout cas, on peut voir comment il y a une négociation sur qu'est-ce qui est acceptable ou non dans un parc. Et notamment, il y a des conflits autour du congé dominical. Et le dimanche, est-ce qu'on peut jouer au tennis au parc? Est-ce qu'on peut jouer au baseball? Donc, il va y avoir comme ça là, tout un débat autour de leur place. Mais à partir de la fin du 19e siècle, il devient évident que dans toutes les grandes villes, ça devient une sorte de service essentiel. Une grande ville n'est pas une grande ville s'il n'y a pas un parc dans lequel on ne peut pas échapper un instant à la ville, à son excitation, à ses dangers, etc.
Ce débat sur les espaces verts s'ancre dans un champ plus large de revendications qui vise à embellir les villes afin d'assurer le bonheur de la population. Ce fut notamment mis de l'avant par le mouvement City Beautiful qui prit son ampleur aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce mouvement et sur les effets qu'il a eu sur l'aménagement urbain nord-américain?
Mm-hmm. Oui, c'est intéressant parce que c'est un peu une extension de ce qui se passe avec les parcs et avec Homestead. Puis c'est aussi jusqu'à un certain point une contradiction de ces idées de l'entreprise. Donc, on s'entend qu'à la fin du 19e siècle, il y a quand même un consensus sur le fait que les villes industrielles modernes ne sont pas nécessairement belles, ou en tout cas pas aussi belles qu'on le voudrait. C'est pas Florence, c'est pas Vienne, c'est certainement pas Paris. Donc, il y a cette idée que les villes sont laides, mal aménagées, un peu chaotiques, comme je le disais tout à l'heure. Et là, il y a quand même un certain nombre d'intervenants qui vont, surtout des architectes, des aménagistes paysagers, qui vont commencer à réfléchir à cette question-là en s'inspirant des villes européennes, notamment des grands travaux du baron Haussmann à Paris, là, qui dégage les perspectives, ouvre de grands boulevards. Et là, c'est intéressant parce qu'ils s'inspirent de Homestead, mais ils sont complètement en désaccord avec lui. Pour Homestead, la ville ne peut pas être sauvée, elle ne peut pas être embellie, elle est comme fondamentalement laide. C'est la nature qui peut vous sauver. Mais les gens du mouvement City Beautiful ont l'impression, non, on peut faire quelque chose avec la ville, on peut la rendre plus belle. Et ils vont prolonger les idées d'Homestead. Pour eux, une ville belle, bien aménagée, va améliorer encore une fois, la santé physique, mentale, le caractère moral de ses habitants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Ils proposent évidemment des grands parcs. Ils proposent des grands boulevards, dégager des perspectives. Ils proposent également de construire des grands bâtiments publics, civiques, que les grands bâtiments ne soient pas seulement l'entreprise privée, le capitalisme, mais que c'est ça, le civisme soit représenté dans des bâtiments tout aussi magnifiques et qui inspirent. Et là, c'est intéressant parce que la grande vitrine du mouvement City Beautiful, c'est 1893, la World Columbian Exposition à Chicago, qui est faite pour commémorer, avec un an de retard d'ailleurs, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique du Nord. Donc, on va construire à Chicago une ville qui va se vouloir on va essayer de distiller les principes du mouvement City Beautiful, et on construit une gigantesque ville dans le style Beaux-Arts. Là, c'est magnifique, avec des colonnades. Tout est blanc. D'ailleurs, on la nomme la White City, ce qui est un nom assez problématique. On connaît la question américaine, enfin. Et vraiment, c'est un peu comme Central Park va être la vitrine pour Homestead. La White City, c'est la vitrine pour les gens du mouvement City Beautiful. Donc, le mouvement a quand même un impact, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs villes qui vont être éblouies, ils veulent la même chose. Donc, les gens du mouvement City Beautiful vont être actifs à Washington, vont être actifs notamment à Denver, dans plusieurs villes du Midwest qui sont en développement puis qui ont le temps et l'énergie. Le seul problème, c'est que dans bien des cas, les élites municipales vont surtout s'intéresser à « je pourrais me construire une grosse mairie impressionnante » et vont comme laisser de côté l'aspect bien commun de l'entreprise. C'est pas le cas partout. La ville, encore une fois, où ça a le mieux peut-être été fait. Il y a Washington, où on va revoir le cœur de la capitale américaine à la lumière de ces principes-là. Et Chicago, en tant que tel, va se doter d'un plan, le Plan of Chicago en 1910, si ma mémoire est bonne, qui va vraiment guider le développement de la ville là, de 1910 jusqu'à tard, là, dans le 20e siècle. Donc, il y a quand même un certain succès. Il y a aussi un côté sombre au mouvement City Beautiful. Là. Il va inspirer des gens peu recommandables. Staline trouve que c'est une belle manière de construire des gratte-ciels après la guerre. Hitler et surtout son architecte Albert Speer s'inspirent un peu du mouvement City Beautiful pour le Berlin qu'ils auraient reconstruit après la guerre. Donc, c'est quand même des idées qui vont inspirer un certain nombre de dictateurs totalitaires. Mais dans sa version originale américaine, il faut le dire, le mouvement City Beautiful, une des caractéristiques que j'aime bien, c'est que la plupart de ses animateurs étaient très insistants sur le fait que tous ces changements-là devaient être faits en consultant la population. Mm. Ça ne pouvait pas être un mouvement autocratique, unidirectionnel. Il fallait à la rencontre des citadins et qu'ils soient des collaborateurs dans l'embellissement de leur ville.
OK, donc un mouvement par et pour les citoyens.
Oui, quand même. Oui, tout à fait.
Et est-ce que c'est au même moment qu'on en vient à avoir une sensibilité, ou c'est plus tard peut-être, au niveau de l'intégration des œuvres d'art publiques aux aménagements urbains ou dans les parcs même?
Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait lié. Justement, quand on regarde la White City, là, justement, il y a des statues un peu partout, là, des œuvres d'art de toutes sortes. Et effectivement, c'est dans le mouvement City Beautiful d'intégrer différents éléments artistiques. Il faut le dire, on va leur faire quelques critiques quand même qui sont méritées, notamment leur idée du beau. Est assez étroite. Mm-hmm. Ils ont une idée de ce qui est beau. C'est beaucoup le retour au classicisme. Donc, ils ont une vision quand même assez orientée de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas. Il faut le dire aussi, ils sont pas très sensibles à la question raciale. Elle passe un peu en dessous de leur radar. Pour eux, ce n'est pas une problématique là, vers laquelle ils vont se tourner, alors qu'elle commence déjà à l'époque là, à être criante.
Et quand on se reporte dans les quartiers plus ouvriers, là, par exemple à Montréal, comment ce mouvement-là, est-ce qu'il va vraiment changer les quartiers ouvriers ou on se concentre vraiment dans les quartiers déjà bourgeois? Là?
Oui, c'est un mouvement qui touche surtout pas seulement tant les quartiers bourgeois que le cœur de la ville, le Central le Business District, là, c'est le quartier des affaires. L'idée est de transformer le cœur de la ville, c'est son centre le plus dense. Il faut dire d'ailleurs aussi, c'est intéressant parce que le mouvement va avoir quand même des échos au Canada, à Montréal, à Québec, dans quelques villes de l'Ouest canadien. Il y a des gens qui s'inspirent des principes, mais vraiment, c'est l'ambition, les moyens vont manquer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ville canadienne qui va vraiment investir massivement dans ce genre de choses-là. À Québec, il va y avoir une commission architecturale qui s'en inspire un petit peu avant qu'elle soit abolie. À Montréal, il va y avoir quelques articles dans les journaux où on voit de premières esquisses de qu'est-ce qu'un centre-ville montréalais redessiné selon le mouvement, les principes du mouvement auraient l'air, mais rien de tout cela va être mis en pratique.
Et on va reparler de cette question-là que vous avez abordée rapidement, des inégalités de richesse, mais aussi de la ségrégation raciale après la pause. Mais avant, il y a une dernière question qu'on avait vraiment envie de vous poser. Et c'est à titre personnel, donc, quelle est selon vous la plus belle ville en Amérique du Nord?
Ouf, je la redoutais un peu celle-là. écoutez, ça revient à la question de la définition de la beauté. Je suis tenté d'essayer de m'échapper, là, mais je le ferai pas. Deux choses peut-être. Sur la notion de beauté, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être un amour des villes planifiées, harmonieuses, équilibrées, tout ça. Et aujourd'hui, je dois avouer que c'est un peu le contraire. J'aime les villes où il y a une touche de chaos, une touche de désordre. Je pense que c'est dans l'essence de la ville d'être un endroit où il y a une juxtaposition inattendue des styles, des niveaux de richesse, des matériaux, etc. Donc, je me méfie maintenant de plus en plus des villes trop bien planifiées, aménagées. Donc, j'aime bien les villes qui ont une touche de chaos. Donc, ceci dit, si j'avais à choisir, je ne dirais pas nécessairement la plus belle, mais une de mes favorites est certainement, comme je disais, Chicago. Je trouve qu'elle distille en elle là, beaucoup de caractéristiques de la modernité que j'aime bien. On y retrouve des grands parcs, un centre-ville diversifié, certains des gratte-ciels là, que je préfère, incluant le Wrigley Building et le Tribune. Donc oui, ce serait probablement ma préférée. Puis écoutez, il y a un grand lac, le lac Michigan à proximité, là, qui ne ruine pas la vue non plus.
Parfait. Alors, merci pour votre réponse. Et pour notre seconde pause musicale, on va quitter cette fois Chicago, aller plutôt du côté de Compton afin d'aborder justement les inégalités sociales dans l'espace urbain. Donc, on s'en va à la pause avec NWA et le succès Straight Outta Compton. À tout à l'heure. You are now about to witness the strength of street knowledge. Bodies are hard on. You two play if you fuck with me. The police are gonna have to come.
Straight out of Compton, another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this, but the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across, it's like burglary. The definition is jacking, but when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I find a good piece of pussy and go up in it. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. You probably get mad like a bitch is supposed to, but that shows me slut drunk and posed to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. MC Ren controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Not a right hand, cause I'm a hand itself. Every time I pull an AK off the shelf, the security is maximum, and that's a law. R-E-N spells red, but I'm wrong. See, cause I'm the motherfucking villain. The definition is clear.
Terre en vue, Capitaine Cartier.
Ha! Quoi demander de mieux? Le cap brille de 1000 diamants. Il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire.
Re-bienvenue à 3100 secondes d'histoire pour notre épisode sur l'histoire des villes nord-américaines en compagnie d'Harold Bérubé. Et on arrive dans le dernier bloc de notre émission qui porte sur les inégalités sociales dans le tissu urbain. Et donc, vous l'avez évoqué à de nombreuses reprises tout à l'heure, mais les grandes villes nord-américaines ont été fondées dans un contexte qui est extrêmement inégalitaire. Et aujourd'hui encore, on voit dans l'espace urbain l'héritage de la ségrégation raciale et aussi de toutes ces pratiques-là qui ont fondé l'histoire des États-Unis, mais aussi du Canada, il faut le dire, du Mexique également. Alors, comment est-ce que cette histoire violente, en fait, a marqué le tissu urbain jusqu'à aujourd'hui?
Oui, disons que je pourrais d'abord en parler de manière générale, puis ensuite me concentrer sur la question spécifique là, des inégalités raciales. C'est clair que les villes dont la révolution industrielle accouche sont des villes de plus en plus inégalitaires, c'est-à-dire que pas qu'il n'y avait pas d'inégalité dans les villes pré-industrielles, mais il y avait une plus grande mixité, la distance entre riches et pauvres, à la fois géographique et matérielle, était moins grande. La révolution industrielle va élargir ce phénomène-là, c'est-à-dire que donc il y a un étalement dans l'espace, il y a une spécialisation des quartiers, donc il y a des quartiers que va favoriser la bourgeoisie, des quartiers que vont préférer donc les gens plus pauvres. Puis évidemment ici, c'est l'idée que les gens vont vouloir ou on va les forcer à se retrouver entre eux. Et c'est vraiment peut-être ce qui est particulier, là, c'est-à-dire que donc on a cette spécialisation de l'espace, quartier ouvrier, quartier bourgeois, quartier immigrant également, quartier industriel, etc. Et là, donc pour certains, cette spécialisation, elle est voulue, désirée. C'est le cas de la bourgeoisie, mais c'est le cas aussi quand même de certaines communautés immigrantes, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une force, quand vous êtes un nouvel immigrant, à vous retrouver avec des gens de votre communauté, à être en mesure de construire différentes associations d'entraide, notamment à une époque où il n'y a pas de d'État-providence, il n'y a pas de filet social. Donc, les gens vont vouloir se retrouver entre eux. La grande différence, évidemment, c'est qu'à mesure que les gens deviennent plus prospères ou s'établissent dans une ville normale, il y a ce qu'on pourrait appeler un droit à la ville qui va finir par primer, c'est-à-dire qu'à mesure que votre situation s'améliore comme individu ou comme communauté, vous devriez être en mesure de vous déplacer dans l'espace pour améliorer votre sort. Et c'est ce qu'on va voir dans plusieurs communautés immigrantes comme ça. On le voit, là, il y a une sorte de quartier d'atterrissage. Les gens s'installent, s'entraident, améliorent leur sort, se déplacent en groupe ou individuellement vers d'autres quartiers, etc. Évidemment, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a certaines communautés pour lesquelles c'est impossible. Donc, à ce niveau-là, à ce moment-là, cette spécialisation de l'espace, elle est subie plutôt que voulue. Et là, ça nous amène vraiment à cette question là, des inégalités raciales.
Une ségrégation de l'espace qui passe aussi, j'imagine, par l'aménagement même, l'accès au parc, l'accès aux transports en commun. Donc, tous les services de la ville vont être affectés par cette ségrégation de l'espace.
Oui, exact. Et ça nous amène un peu aux outils qui sont déployés, c'est-à-dire que ce genre de ségrégation est presque caractéristique des grandes villes, c'est-à-dire qu'on les retrouve un peu partout, pas seulement aux États-Unis, on les retrouve au Canada, ailleurs dans le monde, ces différentes formes de ségrégation. Et là, évidemment, comme historien, c'est intéressant d'essayer de comprendre comprendre comment tout ça est mis en place. C'est-à-dire que cette ségrégation-là ne peut pas être seulement maintenue par la violence. Si on regarde ça de manière très froide, la violence n'est pas un instrument qui permet d'instaurer durablement ce genre d'inégalité-là. Et on va le voir, donc, dans les villes américaines, la fameuse question raciale se pose surtout à partir de l'entre-deux-guerres, dans le cadre de ce qu'on appelle la grande migration, c'est-à-dire que après la fin de la guerre des sécessions, les Afro-Américains libérés s'aperçoivent bien que dans le Sud, leurs conditions, leur situation ne s'améliore pas. Donc, on va vouloir se tourner vers la ville et vers les villes du Nord, notamment dans l'espoir d'améliorer son sort. Et là, évidemment, les Blancs du Nord ne sont pas beaucoup plus accueillants que ceux du Sud là, face aux Afro-Américains. Donc, encore là, initialement, la violence est mise de l'avant hein, pour essayer de ségréguer justement ces Afro-Américains dans certains quartiers. Et peu à peu, on va voir comment est-ce qu'on peut légiférer. À ce niveau-là, justement, Baltimore, le triste honneur d'être la grande pionnière. Donc, en 1910, on adopte le Baltimore City Ordinance, qui est la première véritable mesure là, de ségrégation spatiale dans une grande ville nord-américaine. Donc, on va essentiellement classer les blocs dans la ville noir ou blanc. Et dans le fond, si vous êtes un noir qui vit dans un quartier blanc et inversement, vous êtes maintenant passible d'emprisonnement, d'amende, etc. Donc, on va forcer un peu les gens à aller chacun de leur côté. Et cette ordonnance-là est très populaire. Elle est reprise par plusieurs villes américaines. De manière un peu inattendue, je dois le dire, la Cour suprême américaine va déclarer cette mesure-là inconstitutionnelle, ce qui est étonnant parce que les juges de l'époque sont majoritairement des suprémacistes blancs avoués, mais le NAACP va vraiment bien défendre son cas et tout ça et force un peu la Cour à agir. Donc, on va retourner vers la violence et ça va donner à la fin des années 10 une série de grandes émeutes, spécialement notamment à Chicago, à Détroit, donc des émeutes vraiment meurtrières, là, l'armée est déployée, tout ça, il y a beaucoup de victimes. Et là, on va chercher une autre solution et c'est à ce moment-là qu'on arrive au redlining, qui est vraiment l'instrument ultime avec lequel on compose encore avec son héritage. En gros, qu'est-ce que c'est le redlining? C'est que à partir de la crise des années 30, le gouvernement américain veut, l'intention est noble initialement, c'est de protéger les propriétaires donc de maisons qui risquent de perdre leur maison parce qu'ils ne sont plus capables de payer leur hypothèque. Donc, le gouvernement américain va garantir ces hypothèques-là. Mais là, on va demander à une série d'experts de déterminer c'est quoi le niveau de risque. Hein, on ne veut quand même pas se ruiner, donc on va leur demander de faire des cartes des villes et de déterminer dans quel quartier est-ce que c'est sûr de garantir une hypothèque. Donc, ceux-là sont verts. Mmh. Donc, il y a tout un code de couleurs. Et les quartiers, évidemment, c'est trop dangereux. On va les redliner. Donc, on fait une ligne rouge littéralement autour. Et là, de manière étrange, tous les quartiers afro-américains vont être redlinés. Et c'est pas étrange du tout parce que certains des experts qui sont chargés de faire ça avaient déjà, dans les années 20, exprimé leurs idées là-dessus sur le fait que le meilleur outil de ségrégation, c'était de passer par les courtiers immobiliers, hein, de défavoriser, de rendre plus difficile l'acquisition d'une propriété par des afro-américains. Donc, d'inscrire comme vous le disiez, là, d'inscrire de manière durable dans l'espace la ségrégation. Et cette pratique-là va d'abord être utilisée par le gouvernement américain, après la guerre par les banques et les assurances. Ces cartes-là circulent très rapidement et il devient assez systématique. Si vous êtes un Afro-Américain, vous avez beau être multimillionnaire, le gouvernement ne garantira pas votre prêt hypothécaire. Les banques ne vous les donneront pas si vous êtes dans un secteur redliné. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'imposer assez rapidement. Il y a des combats là, dès les années 30-40, il y a des combats qui sont menés pour démanteler le redlining, mais il faut vraiment attendre les années 60, même 70 là, dans certains cas, pour que ce soit démantelé. Et malgré le démantèlement du redlining, bien, il y a deux choses, c'est-à-dire que d'une part, les effets à long terme de cette pratique-là sont gigantesques parce que tous ces gens-là n'ont pas eu accès aux bons quartiers, aux meilleurs emplois, donc il y a une sorte d'effet ouais. structurel là, majeur d'accumulation avec lequel les Afro-Américains composent toujours. Et en plus, après les années 70, notamment sous les présidences Nixon et Reagan, on va trouver une nouvelle série d'outils. Là. Ça va être le droit de choisir ses voisins. Donc, on va trouver toutes sortes de stratégies pour prolonger de différentes manières cette pratique-là. Ce qui fait que, de manière étonnante, il y a certaines villes américaines aujourd'hui qui sont plus ségrégées maintenant qu'elles l'étaient dans les années 60, par exemple. C'est le cas de Buffalo, justement, où de tristes événements ont eu lieu. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui était inscrit dans l'espace et dans la durée dans les villes américaines.
Au point tel où souvent aujourd'hui, ça va de soi pour beaucoup de gens qui ne vont pas forcément s'intéresser à l'histoire, mais ils vont dire les villes ont leur quartier noir, leur quartier blanc, de la même façon que les gens, des fois, vont parler de quartier riche, quartier pauvre, et c'est des distinctions qui, pour beaucoup de gens, sont acceptées sans être critiquées. Et donc, comment est-ce qu'on en est venu justement à ce que cet ordre des choses-là soit perçu comme naturel ou même légitime pour les gens qui vivent en ville?
Oui, c'est justement, donc les mesures dont j'ai parlé, le redlining joue un rôle central pour ça, mais c'est pas la seule mesure. Ce qui est intéressant peut-être pour répondre de manière plus élaborée à cette question-là, c'est de justement sauter la frontière et de venir voir ce qui se passe au Canada. Et donc, le redlining n'a pas cours au Canada. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ségrégation, au contraire, elle est tout aussi présente. Elle prend différentes formes, évidemment. La question raciale se pose différemment parce que, justement, il n'y a pas cette vaste population afro-américaine. Il y a quand même plusieurs minorités racisées. On peut penser, justement, ben, quand même aux gens à la peau noire. Donc, ils sont nombreux à Halifax. Il y en a quand même à Montréal et ailleurs. Évidemment, les immigrants d'origine asiatique, spécialement les Chinois à l'origine. Donc, on va les ségréger d'autres manières. Dans certains cas, la ségrégation prend la forme de ce qu'on appelle des « restrictive covenants », c'est-à-dire qu'on va, en quelque sorte, laisser à l'initiative privé l'honneur, entre guillemets, de procéder. C'est-à-dire qu'on va vendre, si vous achetez, par exemple, un lot ou une maison, dans votre acte de vente, il va y avoir une disposition comme quoi vous ne pouvez pas revendre votre maison à un certain nombre de groupes. Initialement, il faut le dire que ce ne sera pas sur des bases raciales parce que c'est tellement des minorités en termes de nombre qu'on ne sent pas que c'est nécessaire. On va plutôt viser les Juifs, les catholiques, par exemple, dans certains quartiers protestants de Montréal. Donc, c'est plus les minorités religieuses, ou en fait, majorité dans le cas des catholiques, là, qui sont visées. Pour ce qui est justement des minorités racisées, ça va être tout simplement la discrimination lorsque vous voulez obtenir un logement. Dans le cas des Chinois, notamment, ça va être l'interdiction d'ouvrir des commerces à l'extérieur de leur quartier. Donc, on trouve toutes sortes d'autres stratégies hein, pour justement cantonner les gens dans leur quartier. Et là, comme vous dites, il y a une sorte de naturalisation du phénomène. C'est le quartier chinois, c'est le quartier. Et on a l'impression, effectivement, que tout ça est un peu un phénomène naturel sur lequel on n'a aucune prise.
En ce moment, avec, par exemple, dans le quartier Saint-Roch ou dans d'autres quartiers, notamment à Montréal, il y a une flambée des prix des logements. Donc, on parle aussi de gentrification, beaucoup de crise du logement, des termes qu'on retrouve de façon omniprésente dans les médias depuis la pandémie. Quel lien, donc, on peut faire avec le développement des villes nord-américaines pour, pour en parler aujourd'hui de gentrification, de crise du logement?
Oui, ce sont des termes. Crise du logement, ce n'est pas un terme qui est nouveau en histoire urbaine. On a connu notamment une crise du logement massive là, qui a duré pratiquement des années 20 aux années 50-60 en Amérique du Nord et notamment au Québec, à cause justement du ralentissement des constructions, notamment durant la crise économique et la guerre. Mais c'est un problème qui avait déjà commencé. Donc, face à la croissance des villes, il y a souvent eu ce problème de loger les gens qui débarquent en ville. On ne parlait pas nécessairement de gentrification, mais la question de l'accès, évidemment, à la propriété, au loyer, était là. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est comment des quartiers qui étaient associés justement à une certaine pauvreté deviennent justement des quartiers qui sont inaccessibles et comment le droit à la ville devient... il y a un recul là, vraiment du droit à la ville en général, puisque effectivement, il devient de plus en plus difficile non seulement d'y être propriétaire, mais même d'y loger tout simplement. Ouais.
Donc, Harold Bérubé, merci beaucoup pour votre temps puis pour votre expertise qui nous permet d'en comprendre beaucoup mieux sur les enjeux urbains aujourd'hui. Pour tous les auditeurs et les auditrices qui aimeraient poursuivre sur ce thème, on vous invite à vous procurer le livre « Histoire des villes nord-américaines » de M. Bérubé aux éditions du Septentrion. Et on va faire honneur à votre ville préférée pour notre toute dernière pause musicale avec les Blues Brothers et « Sweet Home Chicago ». Six and two is eight.
motherfuckers on the side. On reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarquer ma belle.
Ouais!